In que vous réécoutez est une rediffusion. Littérature sans frontières. Focus sur les auteurs de non-fiction.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le dictionnaire, à l'article folie, voici ce qui est écrit. 1. Trouble mental, égarement de l'esprit. 2. Manque de jugement, absence de raison. 3. Idées, paroles, actions déraisonnables. Le dictionnaire médical est plus vague mais plus proche de la réalité peut-être, puisqu'on y lit que les termes folie et fou sont polysémiques et désignent toutes sortes de comportements passagers ou durables, jugés comme anormaux, c'est-à-dire qui s'éloignent plus ou moins de la norme. Fermez les guillemets. Ah, j'oubliais, pour revenir au Robert, en tout petit, il y a aussi folie qui désigne anciennement une maison. Bonjour Joyce Sormand.
Bonjour.
Écrivaine, auteure d'une littérature de terrain, d'immersion, vous êtes justement allée pendant un an dans un hôpital psychiatrique au contact chaque semaine des internés et du personnel médical. Des visites hebdomadaires qui ont nourri votre nouveau livre paru sous le titre « À la folie » chez Flammarion, qui au-delà des rencontres humaines et des constats pragmatiques pose la question de la place de chacun dans ou hors de la société, du langage, autant des mots que les silences, du temps et de l'espace, des termes qui sont au cœur de la littérature. Mais avant d'entrer avec vous dans ce pavillon B, qu'alliez-vous chercher exactement, Joyce Sormand, dans ce lieu en particulier, quand vous franchissez la porte, et ce pour une longue durée ?
Alors justement, je savais pas du tout ce que j'allais chercher. Je savais pourquoi je voulais y aller, c'est-à-dire que ça me semblait être un lieu littéraire total, en fait, l'hôpital psychiatrique. D'abord parce que, comme vous l'avez dit en introduction, c'est une aventure du langage, et pour un écrivain, quoi de plus passionnant que l'aventure du langage ? C'est le langage déréglé de la folie, c'est le langage très protocolaire des médecins, des soignants, donc c'est déjà voilà une scène où deux langages s'affrontent. C'est un lieu de fiction aussi, parce que finalement, la folie, c'est l'invention de monde. J'ai rencontré des gens qui ne cessent de réinventer la réalité, qui se prennent pour le soldat inconnu, qui se prennent pour des loups-garous, qui reconstruisent le monde. Donc, c'est une espèce de réservoir à fiction. Je voulais aussi vivre une aventure personnelle, c'est-à-dire m'immerger dans un lieu extrêmement loin de moi, extrêmement étranger, dans l'altérité la plus radicale. Et puis, c'était aussi aborder la société, les questions politiques, sociales, par ce biais-là, par le biais de l'institution psychiatrique. Donc, j'étais mue par ces différents aspects, mais après, j'y suis allée vraiment me demandant ce que j'allais y trouver, parce que j'ai pas de lien personnel avec la folie. Dans mon histoire personnelle, j'ai jamais eu à côtoyer ces lieux. Donc, j'étais tout à fait vierge, à part quelques images de films, de livres que j'avais lus. Donc, j'y allais vraiment le plus neutre possible.
Donc, pour vous aussi, c'était presque un lieu de fantasme. On imagine ce qui s'y passe, mais on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Donc, allons voir, allons écouter, allons écrire. Est-ce que c'est facile, Joyce Sormand, comme ça, de mettre en place des visites toutes les semaines dans un lieu en particulier et de convaincre, je sais pas si c'était un directeur ou une directrice d'établissement?
Non, c'était très difficile. Alors, j'avais pourtant un fixeur ou un poisson pilote en la personne d'un psychiatre retraité de cet hôpital, donc où j'ai passé un an, qui m'a aidé à obtenir quelques rendez-vous, mais ça a été très compliqué. Il y a beaucoup de chefs de service et de médecins qui ont refusé. Il y en a un qui a fini par accepter de me recevoir, pas forcément de m'accueillir, mais de me recevoir. Et à partir de là, il a fallu le convaincre, rencontrer les équipes, rencontrer la direction administrative, signer des chartes de confidentialité, rencontrer les syndicats. Il y a beaucoup de méfiance, hein. C'est comme dans les prisons, sont des lieux fermés, opaques, et c'est difficile d'y entrer, de se faire accepter.
Et comment vous les avez convaincus alors ?
Finalement, je leur ai dit, je vous apporte mes livres précédents, vous les lisez, comme ça vous jugez sur pièce, vous voyez si ce que j'ai dans la tête, ma langue, mon esprit vous plaise ou pas. Et Dieu merci, le chef de service qui m'a accueilli a lu deux, trois de mes livres, les a aimés, donc c'est comme
lesquels ça. Lesquels en particulier ?
Alors, La peau de l'ours, c'est comme une bête de roman, justement, pas du tout des récits de terrain ou des récits documentaires. Mais ça lui a plu, donc ça s'est joué comme ça.
Donc, en une petite quarantaine de chapitres courts, Vous faites, Joyce Ormond, à la fois un état des lieux, de ce que vous voyez, des méthodes, des échecs, des impasses, des réussites de la psychiatrie d'aujourd'hui, et puis surtout le portrait de ces femmes, de ces hommes avec qui vous êtes en contact, qu'ils soient du personnel médical ou malades. Et la première chose qui nous frappe à la lecture de ce livre, c'est surtout en ce qui concerne évidemment ces personnes dont vous décrivez les souffrances, les pathologies, c'est combien pas une ne ressemble à l'autre. Et on se dit, mais comment c'est possible de rendre compte de cette collectivité rassemblée donc en un même site, l'hôpital, le psychiatriste, puisqu'ils sont tous différents, même deux schizophrènes ne se ressemblent pas. Est-ce que ça vous a frappé, vous aussi, cette disparité?
Oui, c'est très juste. Ça interroge justement sur la taxinomie médicale, c'est-à-dire ces appellations schizophrènes, bipolaires, psychotiques, mélancoliques, etc. Et comme vous le dites, il y en a pas deux. Pareil, s'il y a bien une médecine de l'individualité, et beaucoup de soignants me le disaient, c'est la psychiatrie. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est une discipline qui échappe au protocole. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais deux schizophrènes semblable et qu'il faudrait quasiment un infirmier par malade et une façon d'aborder la maladie à chaque fois différente parce que ce sont des histoires personnelles différentes, des manifestations, des symptômes différents. Donc j'ai été assez frappée par ça parce que finalement c'était une manière de remettre en cause la maladie mentale elle-même telle qu'elle est désignée depuis l'extérieur, c'est-à-dire que de remettre en cause le diagnostic. On me présentait un patient en me disant il est schizophrène et puis je rencontrais un autre qui n'avait pas du tout les mêmes symptômes, qui pouvait être beaucoup moins délirant par exemple dans la parole. Donc je me disais mais alors qu'est-ce que ça veut dire schizophrénie? Je ne peux pas parler de la schizophrénie en fait. Je me suis rendu compte que ce livre ne pouvait pas parler de la schizophrénie, de la bipolarité, de la dépression. Elle ne pouvait que présenter, raconter des personnages, des personnes qui sont devenus des personnages, elle ne pouvait que prendre acte de récits, de corps, de vie, de paroles. Mais c'est pour ça que la littérature me semble être une bonne forme pour parler de la folie, parce que la littérature, c'est le lieu justement de l'individualité. Contrairement à un essai où on essaye d'accéder à une certaine généralité, un certain universel, une globalité en tout cas, là, ça me semble absolument impossible pour parler de la folie.
Alors en revanche, s'ils ont un point commun, me semble-t-il, c'est que j'ai l'impression qu'ils ressentent tous cet enfermement comme un enfermement carcéral, comme s'ils étaient en prison. C'est le cas ?
Oui, c'est vrai qu'il y a un chapitre important pour moi au centre du livre qui s'appelle « Prisonnier ». Et ça a été comme une révélation, c'était en plus vraiment à mi-chemin de mon immersion là-bas, au bout de 6 mois à peu près. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ils sont comme des prisonniers politiques. Alors, ils se vivent comme des prisonniers politiques. Après, je nuance en disant, ce sont plutôt des prisonniers sociaux parce qu'ils sont rejetés par la société. Mais c'est vrai qu'ils vivent leur enfermement la plupart du temps. Je vais pas non plus faire une généralité, justement, pas de généralité, mais la plupart du temps, ils vivent leur enfermement comme une injustice puisqu'ils sont enfermés là sous contrainte, que beaucoup ne se considèrent pas comme fous précisément, ne comprennent pas pourquoi on les enferme, ne comprennent pas pourquoi leur réalité est considérée comme fausse, anormale, violente. Donc il y a une espèce de malentendu de départ, puisqu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là, et que, comme je le dis, on les enferme non pas au nom d'un crime qu'ils auraient commis, comme c'est le cas en prison, mais au nom d'un crime qu'ils pourraient commettre contre la société ou contre eux. Il y a l'hypothèse ou la probabilité du crime qui fait qu'ils sont enfermés, assignés à résidence. Donc la question de l'enfermement, elle est évidemment centrale.
Alors vous avez sans doute changé les prénoms, mais peu importe, vous donnez la parole, Joyce Ormond, à une dizaine de patients, de médecins, on l'a dit, assistantes, psychologues, psychiatres. Est-ce que vous avez senti en effet l'envie, le besoin peut-être vital pour certains et certaines de s'exprimer et surtout d'avoir l'écoute d'une personne de l'extérieur qui fasse un peu le tampon entre le médical et la maladie?
Oui, alors quand je suis arrivée là-bas, bon, au début, ma présence était un peu incongrue. Hein. Il a fallu que je trouve ma place. Certains se réjouissaient de ma venue, d'autres pas du tout. Et chez les patients, certains se tenaient loin de moi, ne voulaient pas me parler. Ma présence pouvait d'ailleurs être une violence pour eux parce que justement, venant de l'extérieur, je représentais aussi une menace, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui, à qui l'enfermement justement pouvait convenir dans la mesure où le monde extérieur leur paraissait extrêmement menaçant, extrêmement agressif. Donc moi, je pouvais représenter ce monde réel justement qui leur faisait peur ou qui les agressait. Et puis pour d'autres, ma présence était bienvenue déjà parce qu'il y a beaucoup d'ennuis dans les journées psychiatriques. Il n'y a pas grand-chose à faire, on attend que le temps passe. Je le raconte beaucoup dans le livre, cette espèce de durée visqueuse qui s'étire. Donc, disons que le mercredi, j'étais la visiteuse. Pour cela, j'apportais un peu d'air de l'extérieur. J'apportais un peu d'animation, tout simplement, dans des journées extrêmement réglées. Tout d'un coup, il y avait quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu différent qui se passait, qui était juste ma présence, justement, incongrue, inhabituelle, inattendue. Et moi, j'avais tout mon temps pour parler parce que, évidemment, comme je le raconte aussi, on manque de personnel. Donc, les patients peuvent pas toujours être entendus. On peut pas toujours passer du temps pour les écouter. Moi, j'avais rien d'autre à faire. Donc, beaucoup me parlaient, me racontaient leurs histoires, s'amusaient aussi avec moi à me mentir, me manipuler ou à se moquer de moi en disant, bah, toi, l'écrivain, l'espèce de prédateur aussi, l'écrivain prédateur qui vient prélever les histoires des autres comme matériaux pour sa propre gloire, quoi, d'une certaine façon. Ils étaient pas dupes de ça, mais voilà, donc on parlait, ou parfois aussi on restait en silence, parce que je le dis, il y a pas que la parole qui soigne, il y a aussi parfois le silence, mais en tout cas, oui, on peut dire que c'est essentiellement une aventure de la parole entre les patients et moi, en tout cas pendant cette année.
Alors, si vous voulez bien, j'aimerais bien avec vous qu'on les entende, qu'on les voit, qu'on mette un nom, un visage, avec peut-être cette personne Jessica, à qui vous consacrez ce chapitre intitulé « Calamity Jane ». Est-ce que vous voulez bien nous lire cet extrait, Joyce Ormond ?
Avec plaisir.
Nous sommes page 151.
Jessica est la star du pavillon 4B. Mascotte des uns, âme damnée des autres, on ne compte plus ses séjours. À sa première hospitalisation, elle a 13 ans, aujourd'hui 29. Elle monopolise l'attention, attire tous les regards de désapprobation ou de compassion, a épuisé des cohortes de soignants, fréquenté tous les services, toutes les structures, foyers, cliniques, maisons de repos, appartements thérapeutiques, multiplié les coups d'éclat, et sa réputation est faite bien au-delà de l'enceinte de l'hôpital. Quel flic, quel pompier, quel urgentiste, quel psychiatre, quel assistant social de la ville ne connaît pas Jessica ? De Jessica, tous s'accordent à dire que c'est un cas. C'est d'abord une vie fracassée. Mère abusive, père mort, compagnon violent, frère suicidé sur sa moto, lancé à pleine vitesse contre un arbre une nuit de déluge, après l'avoir violé pendant des années. Jessica, ses cils de biche sur un visage rond et plein, son corps massif, ses Nike, taille 43, ses survêtements bouffants, son blouson de motard siglé Honda, son gros bonnet enfoncé jusqu'aux yeux, ses tresses africaines un jour, blonde peroxydée le lendemain, sa bombe de lac dans la poche dont elle s'asperge en continu. La première fois que je la vois, silhouette épaisse endormie sur un banc, elle porte dans le cou un patch dont j'apprendrai qu'il limite l'hypersalivation provoquée par les médicaments. On me dit qu'elle a un remède de cheval, sans quoi elle casserait tout. Que l'hôpital est son nid d'oiseau ventru, son couffin de nourrisson jamais grandi. On me dit psychose, état limite, état primaire, pauvreté intellectuelle, infantile, violente. On me dit qu'elle a passé près de 2 ans en UMD, attachée sur un lit, et qu'elle n'a pas pu assister à l'enterrement de son frère. Qu'elle a arraché les fils électriques dans tout le service, brisé la vitre de sa chambre pour fumer, attaqué les infirmiers avec un extincteur, mordu au visage nombre de soignants. En réalité, seule Maria, avec qui elle aime chanter « Je t'aime » de Lara Fabian, et la sainte Adrienne ont encore suffisamment d'empathie, d'amour peut-être. Mais peut-on imaginer la psychiatrie sans amour, car sans amour ni lumière ni salut, pour encaisser l'éreintante compagnie de Jessica, agitée, instable, harcelante, cyclothymique, interrompant toutes les conversations, poreuse à la moindre contrariété, capable de crises clastiques phénoménales.
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de Littérature sans frontières avec aujourd'hui Joyce Ormond pour parler de son nouveau livre intitulé « À la folie » chez Flammarion, qui, en immersion dans un hôpital psychiatrique pendant un an, toutes les semaines, dresse le tableau d'un espace géographique, mental, médical, sociologique, qui tente de contenir en un seul lieu les débordements des uns et des autres. Sans faire de généralité, puisque c'est ce que vous voulez éviter, et moi aussi, j'ai néanmoins remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient déracinées dans cet hôpital psychiatrique, en tout cas dans ce pavillon. Des personnes qui viennent du Rwanda, du Bénin, d'Ukraine, des Antilles, et donc qui se retrouvent plongées dans un monde, une culture où ils n'ont pas été structurés, comme si la rupture avec le sol natal était déjà une fracture mentale. Ça en dit long sur ce qui nous attend. Tous ces migrants qui, par force, sont obligés de passer d'un continent à l'autre pour sauver leur vie, pour échapper à la guerre, à la maladie, à la tyrannie, ça va créer encore plus de désordre mental, probablement. Est-ce que c'est un sujet que vous aviez abordé avec les médecins ou pas?
Oui, tout à fait. Ça va créer, ça crée déjà beaucoup plus de désordre, comme vous le dites, mental, social, politique, économique. Et c'est vrai que donc dans ce service, alors on est à l'hôpital public, c'est pas le même monde que les cliniques privées, les cliniques psychiatriques. À l'hôpital public, en psychiatrie, il y a beaucoup de destins fracassés, de gens issus de milieux très pauvres et beaucoup voilà de migrants, de déracinés comme vous le disiez. Et d'ailleurs, les infirmiers de l'ancienne école que j'ai pu côtoyer me disaient qu'ils avaient du mal, en fait, à s'adapter aux nouvelles pathologies que créaient immanquablement, justement, ces odyssées, voir ces jeunes gens arriver après avoir traversé plusieurs pays en guerre, avoir subi des violences, des viols, etc. Et que donc, ça produit de nouvelles maladies qu'il faut apprendre à soigner. Il y a aussi parfois la barrière de la langue, des références culturelles différentes, en particulier des infirmiers me parlaient du poids du religieux qui, arrivé en France, pouvait paraître un délire mystique alors que dans leur culture d'origine, c'était tout à fait la référence commune. Et puis l'autre problème avec ces migrants et ces déracinés, c'est que beaucoup de psychiatres que j'ai rencontrés se plaignaient que le pouvoir politique se débarrasse auprès d'eux, auprès de la médecine psychiatrique, de ces gens qui relèvent pas toujours justement de la santé mentale, qui sont juste dans des situations extrêmement précaires et qui relèvent plutôt du social. Et comme on veut pas s'en occuper, eh bien on les à la moindre angoisse exprimée par l'un d'eux, on les envoie en psychiatrie comme on les mettrait sous le tapis.
En fait, c'est un lieu qui rassemble tous les dysfonctionnements de la société, qu'on met à l'écart, sous le tapis, qu'on ne veut pas voir, qu'on veut cacher, alors que c'est justement là où il faudrait voir à quel point la société est malade.
Tout à fait. C'est vraiment tous les rebuts qui atterrissent là. C'est-à-dire qu'il y a énormément de patients, par exemple, qui arrivent amenés par les urgences. Donc, en dernière instance, ces gens à bout arrivent aux urgences et les urgences les emmènent directement, donc, au bout de la chaîne, l'hôpital psychiatrique, sans se poser de questions. Et c'est vrai que vous disiez, c'est cet endroit caché, l'architecture elle-même le prouve, hein, des murs hauts, des fenêtres opacifiées, des grilles. Vous savez, le psychiatre Lucien Bonafé, une grande figure de la psychothérapie institutionnelle, disait qu'on mesurait le degré de civilisation d'une société à la façon dont elle traite ses fous. Alors on pourrait dire aussi justement ces migrants, ces prisonniers, ces vieux, ces déclassés en tout genre. Donc aller à l'hôpital psychiatrique, c'est voir dans quel état est la société. Et c'est pas fameux.
Et comment ça se passe aujourd'hui d'ailleurs en cette crise sanitaire qui impacte tous les lieux médicaux?
Alors les soignants me disaient que beaucoup de patients avaient très bien vécu le justement pour les raisons que je pouvais dire tout à l'heure, que le monde extérieur leur semblait une violence et que là tout d'un coup tout s'était apaisé, tout s'était ralenti et que ce caractère apathique qui caractérise l'hôpital psychiatrique avait contaminé la société tout entière et qu'ils se sentaient moins seuls, moins voilà justement dans le confinement. C'est comme si le monde entier s'était arrêté sur le même rythme que ce qu'ils vivent. Donc il y a eu comme ça un apaisement. Ils me disaient que les patients avaient très bien vécu le premier confinement, mais qu'en revanche au moment du déconfinement, et on en parle pas mal en ce moment, il y avait eu nombre de décompensations et là un afflux de nouveaux patients qui décompensait au moment où on déconfinait et que ça, là, ça semble être une question, un problème très important et en particulier chez les jeunes. Enfin, on en parle beaucoup en ce moment.
Revenons à votre travail d'écrivain, Joyce Ormond, parce que je vais les citer, Marie, Franck, Bilal, Youssef, Sarah, Eva, Barnabé, Catherine, Robert. Je mélange les noms hein, exprès des soignants et des soignés, comme vous le faites exactement. Et je me demandais, est-ce que vous aviez la sensation de les avoir écoutés de la même manière ou en tout cas, pourquoi volontairement les mettre sur le même plan? Parce que c'est ça aussi votre parti pris.
Oui, je suis heureuse que vous le releviez parce que c'est très important pour moi dans la construction du livre. Il n'y a pas de guillemets. Les paroles, à la fois ma parole, celle des soignants et des soignés, sont emmêlées parfois dans la même phrase. On peut glisser du jeu de la narratrice au jeu d'un soignant ou d'un soigné. Donc, je voulais cette transversalité, cette égalité. Voilà, j'avais très peur du surplomb. Venant de l'extérieur, venant du monde sain, du monde normal, avec toutes les guillemets de circonstances, j'avais très peur, de cette position de supériorité de fait que j'aurais pu occuper. Donc c'est très important pour moi d'instaurer vraiment de la transversalité et une forme d'égalité des paroles. Et les soignants, les soignés, j'ai fini par les écouter de la même manière. Parce que les soignants m'ont fait part aussi de leur grande détresse. J'ai entendu beaucoup de peine, beaucoup de fatigue, beaucoup de tristesse, de découragement aussi chez les soignants. Certains qui étaient au bord eux-mêmes de craquer, en fait, de basculer de l'autre côté d'une certaine façon. Et puis surtout, c'est l'hôpital psychiatrique, c'est une communauté. Ils vivent ensemble, en fait, les infirmiers, les aides-soignantes, les ASH, de ménage et les internés, ils vivent ensemble, ils regardent la télé ensemble, ils se tiennent la main, ils goûtent ensemble, ils font des jeux de société ensemble, c'est un quotidien parfait, on est dans le même espace, c'est une vie.
Alors ce quotidien, vous le rituez, mais non pas dans une narration chronologique, dans un récit, articulé, rythmé, je pense. Avoir pris des notes, vous avez dû vous poser pendant un certain temps pour mettre tout ça en ordre. Il y a donc ce ressenti entre le documentaire et l'émotionnel. C'est un texte donc littéraire qui montre le frottement entre la fiction et la réalité. Alors vous le disiez, Sormon, c'est un lieu littéraire. J'entends bien, mais j'ai envie de vous dire, il y en a d'autres aussi. La prison, par exemple, le théâtre. Tout lieu, finalement, devient littéraire. Le zoo, et je dis pas ça par hasard, évidemment. Donc, est-ce que le défi ou la difficulté pour vous, c'était peut-être aussi de rester en deçà et de pas faire trop personnage, trop fiction, de pas trop embellir ou aggraver?
Oui, c'est vrai que le danger, c'est le pittoresque, en fait.
Voilà.
Tout à fait. C'est le pittoresque, c'est le personnage haut en couleur, qui déraille, dit n'importe quoi, qui se met nu dans le jardin. Ça, c'était une inquiétude. Une inquiétude, une prévention de me laisser aller à cette pente. Et c'est vrai que le roman, la forme romanesque, elle pourrait inciter à ça. Et puis, il fallait que je sois aussi à la bonne distance, comme vous disiez, du point de vue de l'émotion, c'est-à-dire de l'empathie, mais non plus, enfin, pas de proximité trop grande, évidemment pas d'inquiétude, pas de poétisation, pas de spectaculaire, comme je le disais. Donc, il me fallait garder une certaine neutralité, de la bienveillance, mais une certaine neutralité. Et puis essayer de rendre compte, voilà. Mais après, je suis quand même dans le champ, c'est-à-dire que je me suis posé la question quand j'écrivais le livre, est-ce que je vais apparaître? Et c'est vrai que à un moment, je pensais ne pas apparaître, et je me suis dit c'est pas juste, c'est malhonnête, parce que ma présence était perturbante, et puis c'est aussi mon regard, donc il faut que je me mette dans le champ, il faut que je monte. Moi aussi sur la scène de ce petit théâtre psychiatrique. Et c'est ça qui fait que je deviens presque aussi une sorte de personnage.
Est-ce que vous avez senti, Joyce Ormond, si votre écriture, votre langue, votre rapport au verbe, mais aussi au silence, s'était modifié au contact, ou pas d'ailleurs, de ce sujet en particulier?
Alors, pour continuer dans ce que je disais, j'ai voulu une écriture peut-être un peu plus sèche, un peu plus dépouillée, un peu plus calme que dans les romans, justement, quelque chose de moins chatoyant que dans les romans. Je voulais me tenir à une certaine simplicité, justement pour éviter le spectaculaire, le romantisme. Donc j'ai l'impression que ça a un peu modifié mon écriture de ce point de vue-là. Que comme vous le disiez, il y a des silences qui sont marqués dans la page, par exemple par des blancs. Ce sont des moments où, même moi, devant des situations, des scènes violentes, émouvantes, choquantes, j'avais besoin de faire une pause, et aussi une pause dans l'écriture, de pas reprendre tout de suite le récit. Donc il y a du blanc dans la page qui dit aussi, voilà, mon envie de retrait et de réflexion. Et puis il y a quand même le verbe de la folie qui vient aussi s'enrouler dans mes propres phrases. À un moment, par exemple, il y a Maria qui dit normalement, c'est le cerveau qui dirige le doigt, et chez moi, c'est le doigt qui dirige le cerveau. Ou Franck qui me dit un matin, vous savez, on vient de découvrir la première sirène mâle échouée sur une côte californienne. Donc ces phrases-là, qui sont des phrases justement poétiques, tout à fait romanesques, je viens les insérer dans ma propre phrase et c'est comme des cadeaux qui faisaient aussi à mes propres phrases. Et c'est pour ça que le livre s'appelle À la folie, entre autres. C'est une espèce de dédicace, un remerciement à ceux qui m'ont apporté un verbe nouveau.
Pour boucler la boucle, je vous demandais, Joyce Ormond, ce que vous alliez chercher. Au terme de cette émission et de ce livre, qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Alors, j'ai trouvé rien. Alors, je vais m'expliquer sur ce rien, parce que je trouve que c'est la grâce pour moi de, alors pas forcément du livre, mais de mon expérience. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce livre, je dis que j'ai vécu une expérience sans révélation. C'est-à-dire, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a pas de vérité qui tienne en psychiatrie. Tout est précaire, tout est révocable. Ce qu'on dit un jour est contredit le lendemain. Aucune affirmation définitive n'est possible. Donc c'est vraiment une expérience qui incite à la modestie, à la patience, à l'incertitude, autant de vertus qui me paraissent essentielles pour un écrivain, mais pour tout individu. Voilà, donc je dirais que j'y ai trouvé des vertus et certainement pas un savoir ou une connaissance définitive.
Ils savent que vous avez écrit ce livre, qu'il a été publié.
Oui, non seulement ils le savent, mais surtout je suis retournée dans les deux unités psychiatriques que j'avais visitées avec des livres pour leur offrir et puis pour savoir ce qu'étaient devenus les uns et les autres, comment eux aussi avaient vécu l'expérience, prendre des nouvelles. Donc il y a un lien qui va rester, qui sera ténu, évidemment. J'ai pas vocation à passer toute ma vie à y revenir sans cesse, mais bien sûr qu'il y a un compagnonnage qui peut en filigrane continuer.
Et ce lien, c'est la littérature.
J'espère, parce que c'est une des vertus de la littérature.
Merci beaucoup, Joyce Ormond. Je rappelle le titre de ce livre, À la folie, qui a été publié chez Flammarion.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. En sol majeur, Yasmine Chouak.